Et bonsoir à tous, notre avant-dernière émission, voilà, et puis il n'y a plus grand-chose à raconter avec ce mauvais temps et temps frichquette depuis plusieurs jours maintenant. Donc la pluie, et puis on ne va pas rappeler que les comptages sont arrêtés côté l'Irati, alors ils ne sont pas tout à fait arrêtés pour le GIF, qui a compté aujourd'hui 80 palombes à Urugne, ailleurs 0, donc vous voyez, ça va très vite, et pour les filets, ils sont en berne. Voilà, alors on a un invité, c'est Georges Lascaret. Bonjour Georges.
Oui, bonsoir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir. Voilà, donc c'est notre correspondant aussi. Hein. Chaque année, tu nous dis un petit mot sur la saison qui est pratiquement terminée, on peut dire comme ça. Alors, on a discuté ensemble déjà hier. Tu me disais, bon, on va pas revenir sur cette saison catastrophique, mais tu peux quand même nous dire un petit mot. D'abord, tu as chassé toujours au même endroit.
Oui, alors cette année, oui, moi je suis resté jusqu'au 17, c'est sur le secteur de la Madeleine. Et puis ensuite, j'ai émigré du côté de secteur Pagol. Mmh. Et bon, pour constater que c'était pas mieux là-bas de toute façon, mais bon, on a vu quelques palombes dans le fond, là, pleines de Saint-Palais qui partaient est-ouest direction la côte. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on regarde bien de près, il y a eu un peu de passage. Moi, j'ai relevé les dates du 7-8 octobre. On a vu quelques volées, le 13, le 14, ensuite un peu plus le 18, le 19. J'ai relevé les jours de passage. Tu vois, donc le 21, le fameux jeudi, là, l'après-midi, il y a eu 2 heures de passage assez intensif. Mmh. Mais il faut savoir que ce jour-là, il passait déjà des palombes sur la côte le matin. Et puis ensuite, le 22 et le 29. Mais globalement, à part une journée, c'est des passages qui sont extrêmement limités dans le temps. Chrono montre en main, c'est 45 minutes à 1 heure de passage à tout casser, avec très peu de vols, et ça permet pas d'effectuer une chasse correcte, en fait. Mmh. Il y a très très peu de palombes qui passent. Elles passent, mais en très petite quantité sur notre secteur. Moi, j'ai les comptages d'Irati sur 30 ans, quand même. 2000, c'est quand même une chance. C'est de 1980 à 2010. Mmh. Et si on trace une courbe, elle est malheureusement descendante. Mmh. Pour le secteur d'Irati. Bon, tout le monde le constate. Maintenant, le fait nouveau, c'est que, y compris les non-chasseurs, mais enfin, particulièrement les chasseurs, qui commencent à mettre les choses au clair et comprendre qu'il y a quand même un souci au niveau de la palombe transpyrénéenne. Moi, ça fait des années que je le dis. Alors, nos amis écologistes, ornithologues, amateurs ou professionnels, nous disent que bon, il y a eu un léger mieux, c'est vrai, au début des années 2000. Mais moi, je constate que depuis deux années, là, 2009 et 2010, les comptages sont nettement inférieurs à ce qu'ils devraient être. C'est pas en comptant 1,3 million l'année dernière, 1 million. Alors c'est sûr, il est passé après des palombes. Hein. Il peut en passer encore là, il peut y avoir un passage avant le 20, etc. Mais il passera pas 3 millions de palombes. Et je pense que tant qu'on ne remontera pas cette population transpyrénéenne, on aura peu de chance de voir le couloir, les couloirs sur la Soule et le Haut Béarn réalimentés.
D'accord.
Je pense que c'est le seul moyen qu'on a à l'heure actuelle pour tenter de réalimenter ces couloirs, c'est que cette population transpyrénéenne remonte. Le problème, si tu veux, c'est qu'au niveau, il y a une pression de chasse énorme sur cette population. Moi, ça fait des années que je le dis, mais si on prend les chiffres, on regarde un peu partout. Là, j'ai regardé, j'invente pas, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Tu trouves ça sur Internet, partout, sur les sites de chasse, etc. J'ai relevé, là, si tu veux, un total de 34 départements où des gens interviennent sur le site palombe.com et ce sont des gens qui chassent la palombe, ou au vol, ou en cabane, etc. Sur les 34 départements, il y en a 13 qui font partie du sud de la France, c'est-à-dire région Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et il y en a 21 qui proviennent de départements totalement étrangers du sud de la France. Alors, pas là pour dénoncer les gens qui chassent la palombe, mais tout le monde a le droit de chasser. Et c'est pour t'expliquer que au mois d'octobre, quand cette population descend, sur toute la France, elle est chassée partout. Mmh. Dans tous les départements. Alors on prélève. Ensuite, elle va être chassée, il faut le savoir, en Espagne et au Portugal pendant 4 mois. Et là, si tu veux, j'ai découvert récemment que là, il y a quand même un souci chez nos amis espagnols et portugais. Moi, je ne vais pas leur donner de leçons, je ne suis pas là pour ça. Mais on nous a dit pendant un certain temps, effectivement, et moi je l'ai cru, qu'il y avait des quotas qui étaient... Alors il semblerait que ça soit vrai pour le Portugal. C'est 50 oiseaux par jour et par chasseur sur 2 jours par semaine. Mais ça peut amener très vite à des débordements, quoi. Hein. Mmh. C'est quand même assez fort comme prélèvement. Mmh. Mais enfin, bon, il y a un quota au Portugal. Par contre, en Espagne, alors là, c'est la grosse surprise, parce qu'il semblerait que dans certaines provinces, il y a un quota, effectivement, dont j'ai pas le nom, mais dans d'autres, c'est libre. Libre, illimité, pendant 4 mois. Et je conseille aux gens qui ont Internet d'aller sur le site torcaces.com. Torcaces, c'est le nom de la palombe en espagnol.
Exactement.
T-O-R-C-A-C-E-S. Vous allez sur ce site... Et vous allez voir, bon, il y a de très belles vidéos, etc., mais également des vidéos sur la chasse à la palombe en Espagne, et au Portugal, et vous allez voir que vraiment, ce sont des prélèvements qui sont très, très, très importants.
Ouais.
Nos amis espagnols et portugais, bon, ils aiment bien montrer leur prise de chasse, bon, pourquoi pas, mais c'est très important, c'est même, je pense, beaucoup trop important.
Okay.
Et si tu veux, quand ces palombes remontent pour reproduire dans les territoires du Nord et de l'Est de l'Europe, elles sont en sous-effectif chronique. Et il faut savoir malheureusement que ces palombes, elles ont un taux de reproduction qui n'est pas très élevé. C'est le moins élevé de la population des palombes, en fait, tout simplement parce qu'elles nichent elles mettent un certain temps pour voyager. Elles arrivent à partir du mois de mai, mais elles vont nicher dans des régions qui sont relativement froides. Il y a souvent des incidents climatiques qui grèvent la reproduction de ces palombes. Et d'après les ornithologues professionnels, le Muséum d'Histoire Naturelle, etc., leur taux de reproduction ne dépasserait pas deux oiseaux pour deux palombes. Tu veux, un couple de palombes ne mettrait, dans les bonnes années, ne produirait pas plus de deux jeunes. Bon, c'est un taux qui est relativement faible. La population des oiseaux sédentaires qui séjournent en France ou dans d'autres parties de l'Europe, disons France, Allemagne, ce secteur-là, Benelux, Belgique, Hollande, etc., eux ont un taux de reproduction qui est quand même nettement supérieur. Ça, on arrive au chiffre de 3, voire plus, jeunes, volants, à l'issue de la période de reproduction.
Mmh.
Donc il y a deux problèmes. Il y a la pression de chasse, qui est beaucoup trop forte, et ensuite il y a des problèmes au niveau du taux de reproduction de cet oiseau. Si on ne l'aide pas, on va rester dans la situation dans laquelle on est, et moi je suis très très sceptique pour la suite des années à venir, quoi.
Ouais.
Ça va même mettre peut-être en danger la chasse aux panthères, hein. Il faut savoir que les panthères, elles sont positionnées dans des couloirs de passage multiséculaires. On va prendre l'exemple des tchalars. Et tchalars, on a des écrits dans les archives de Pampelune qui parlent du 12e siècle. On a des écrits, tu vois. Bon, donc c'est clairement identifié comme étant chassé au filet depuis le 12e siècle. Ça date pas d'hier, quand même, c'est près de 800 ans. Ils ont des prises en nette baisse.
Mmh.
Et des gros problèmes. Mais alors là, n'en parlons pas. Cette année, j'ai calculé à peu près, je crois qu'il y a 6800 palombes capturées par l'ensemble des panthères, alors qu'on a les chiffres. Enfin, on les a. En consultant les archives des patrons, des palombières, on a les chiffres. Dans les années 60, ils se capturaient en moyenne sur l'ensemble des panthères, qui n'ont pas changé d'ailleurs, situées une en Béarn et toutes les autres au Pays Basque, ils se capturaient en moyenne entre 35 000 et 40 000 palombes. Tu imagines un peu la chute. Donc ça prouve bien que le passage dans ces couloirs de migration s'est effondré en une trentaine d'années.
Ouais, je disais hier, sur les 7 panthères que l'on suit, là, déjà,
oui.
On a arrêté ça à la date du 7 novembre.
Oui.
Par rapport à l'année dernière, il y a moins de 3000, hein, c'est quand même
oui.
énorme. Hein.
Oui, tout à fait, c'est très ouais. important. Ouais. C'est très important, tout est relatif, bien évidemment, par rapport au nombre d'oiseaux qui sont passés. Quoi, hein.
Mmh.
Moi, j'ai eu un long dialogue intéressant avec le chatard d'Oskiche, j'y vais tous les ans, à Dominique, on a parlé un bon moment. Bon, lui aussi, t'inquiète, tous les chasseurs sont inquiets, quoi. Mmh. Est-ce qu'on va pas tout foutre en l'air en quelques décennies, quoi? C'est le problème qu'il faut se poser. Là, je crois que on est à un virage, hein, où on reste les mains dans les poches, on continue de gérer ça la petite semaine, et à mon avis, on va aller droit dans le mur, ou bien on prend des mesures fortes. Ça, moi, j'ai pas le pouvoir de décision, hein, ce sont les présidents de fédération. D'ailleurs, j'ai envoyé un courrier à mon président de fédération.
C'est ce que j'allais te demander. Tu vas en parler?
Ouais, tout à fait. J'ai envoyé une lettre. Bon, maintenant, après, il va la lire, pas la lire, je sais pas, c'est le secrétaire, peu importe. Bon, moi, je pense que j'avais à cœur de lui envoyer un courrier. Je pense que c'est un homme d'action. Je pense que lui, son intérêt également, quand même, c'est de se positionner sur une gestion durable de la palombe transpyrénéenne. Il est chasseur de palombe également. Mais je pense qu'il va falloir vraiment faire quelque chose. Je pense qu'il faudrait une réunion tripartie entre les représentants de la région Aquitaine. Bon, c'est la région qui prélève le plus d'oiseaux. Enfin, département, il y a 3 départements. C'est les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques. Ça, ce sont les statistiques des ornithologues qui sont sortis. Bon, disons au moins région Aquitaine Portugal et Espagne. Là, il faut faire quelque chose. Déjà, il y a un petit mouvement qui se dessine aussi en Espagne. Bon, il y a la province de Euskadi, là, les Pays Basques, ils demandent à uniformiser un peu les quotas, etc., de prélèvement, parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi des soucis, quoi. Hein.
Oui, alors justement, il y a plusieurs discours, parce que bon, quand on a été voir Philippe là, de la LPO, bon, lui, il confirme que, bon, sur Irati, puisqu'il compte aussi à l'Endux et à l'Isarieta.
Tout à fait.
Donc sur Irati, en 10 ans, la courbe, comme tu dis, aussi zonographique, bon, elle est descendante, sauf peut-être 2007, où c'était une relativement bonne année.
Mais tout à fait.
Mais ensuite, bon, ils ont compté 50 000 oiseaux, quoi.
Ah, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ben, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, c'est vrai que les gens de la LPO nous disent que, bon, depuis quelques années, là, il y a un léger mieux, hein, il y a un pourcent, ça irait mieux au niveau des passages. En fait, tout ce qui se passe sur l'Indus et l'Isarieta, il semblerait qu'il y ait une augmentation sur ce secteur, mais de toute façon, les problèmes qu'on retrouve sur ce secteur, ce sont celles qui ne passent plus du tout à Irati. Mmh. Enfin, en partie, mais la courbe est descendante. On peut tourner ça dans tous les sens. Il parle d'un léger mieux depuis le début des années 2000. Attention, hein. Mmh. Parce qu'il y a eu du creux de la vague avant, hein. Les années 90, alors là, bonjour, la décennie 90-2000, alors là, on a fait le yo-yo et on a pris des sacrés bouillons, quoi. Hein. Mmh. Il y a eu Pierre Verdet qui a commencé à mettre les pieds dans le plat, là, journaliste talentueux de Sud-Ouest, hein, bon, il est retraité, mais enfin, il a lancé quand même des articles très intéressants dans Sud-Ouest, et c'est lui qui a posé les grandes questions, qui a commencé à parler de la chute des populations grandes migratrices, quoi, transpyrénéennes, quoi.
Oui, vas-y, continue.
Oui, tout à fait. Donc, si tu veux, on ne peut que lui donner raison. Moi, j'ai plusieurs ouvrages, bibliothèque bien fournie, etc. Il y a un excellent livre qui a été écrit par le docteur Alain Jean, un docteur vétérinaire qui avait mis en place les comptages à Organmidechka Col Libre. Lui, il a su augurer également qu'il parlait du déclin de sa population. Il a écrit un excellent petit ouvrage, c'est le pigeon ramier, histoire naturelle d'une migration. Il est vraiment excellent. C'est un petit, moi je le conseille vivement. Mmh. Et si on reprend tout ce qu'il a écrit dans ce bouquin, c'est écrit en 2000, mot par mot, tout ce qu'il a écrit dedans est en train de se passer. Et c'est quand même, bon, c'est un ornithologue de haut niveau, hein, qui travaille avec le muséum, etc. Bon, il a participé à des colloques sur la palombe, il sait de quoi il parle, quoi. Et bon, pour lui, effectivement, il y avait une pression de charge qui était beaucoup trop forte sur la palombe transpyrénéenne, et il parlait que dans les années à venir, on allait manger notre mouchoir, mais il s'est pas trompé, quoi, en fait.
Oui, parce que bon, en gros, c'est quoi? C'est de 2 millions et demi qui doivent normalement.
Oui, enfin, la moyenne des comptages, moi, j'ai calculé une moyenne là sur une dizaine d'années, on avait à peu près, c'est un peu plus faible que ça. C'était 1 720 000 à peu près en moyenne qui passait, avec des hauts et des bas. Mmh. Des hauts et des bas. Là, on a deux années qui sont basses. On a 2009 et on a, alors là, 2010, c'est encore plus bas. Bon, tout à fait. Voilà, en moyenne, alors, si tu veux, ces 10 dernières années ou 15 dernières années, il y a eu un record de comptage en Espagne. C'était une époque où on avait presque atteint les 4 millions de palombes, ce qui laissait augurer, disons, une remontée. Et puis finalement, tout s'est effondré comme un château de cartes. Et faut pas rêver, hein, ça c'est dû à la pression de charge, je le répète encore. Au lieu de lever le doigt sur la détente et tenter de gérer ça, ben, on a continué à prélever comme des trop fortement, en fait. Mmh. Hein. Et le résultat, c'est que c'est retombé, en fait. On a beaucoup de difficultés, je viens de signaler, pour obtenir le résultat du comptage, parce qu'il y a des comptages qui sont faits tous les ans chez nos amis espagnols et portugais, hein, par les autorités locales, etc., les cabinets qui s'occupent de ça. Et on a énormément de mal à obtenir le chiffre des comptages en Espagne et au Portugal. Et moi, je me pose la question de savoir pourquoi, en fait. Mmh. Parce que si tu prends le GIF, c'est un groupement d'investigation, mais international. Donc le GIF aussi a droit de regard sur ce qui passe en Espagne et au Portugal, il participe à des comptages, etc. Comment se fait-il qu'il ne nous communique pas ces chiffres à l'issue des comptages hivernaux en Espagne et au Portugal? Parce que ce chiffre correspond, en fait, puisque c'est la zone de le cul-de-sac de la migration de la palombe transpyrénéenne, ce chiffre correspond, en fait, à ce qui a réellement franchi les Pyrénées.
Ouais,
de part et d'autre, si tu veux, la partie basque, je vais dire, et la partie est des Pyrénées, Aude, Hérault, pays catalan, etc. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, on dirait parce qu'on nous le cache, quoi. Moi, ça me laisse quand même assez dubitatif, quoi. Beaucoup de difficultés à comprendre ça.
Toi qui suis ça de près, on a un chasseur qui nous a appelé là, près du Jura là-bas.
Oui.
Et il nous demandait justement, c'est pas l'homme, tu parles de l'Aude, de l'Hérault, c'est pas l'homme qui sont là-bas, donc elle passe par où pour aller en Espagne après, d'après toi?
Ah ben par la Catalogne, hein.
Oui.
Ah oui, par la Catalogne. Et d'ailleurs, en Espagne, ils ont mis pas mal de points de comptage sur ce secteur. Oui. Alors il y en a qui rasent la côte, d'autres qui traversent directement, mais au pied des Pyrénées, quoi, sur la partie est. Et après, elle coupe l'Espagne en diagonale. Et arrive sur les zones d'hivernage de l'Estramadour, partie espagnole et portugaise.
D'accord. Alors voilà. Toi qui suis, on sait que tu es un spécialiste aussi du temps. Bon, en fait, c'est un faux problème, semble-t-il, non, les conditions météorologiques, parce qu'on a vu qu'il y a eu de très très belles journées où on n'a pas vu un oiseau cette année, quoi. Hein.
Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Alors justement, tu fais bien de le souligner. Moi, je tiens à dire que oui, parce que je prends des notes un peu par-ci par-là, mais je suis pas spécialiste du temps. Hein, je travaille pas à la météorologie nationale.
Non plus.
Non, tout à fait. Non, mais si tu veux, la météo, elle influe grandement sur la migration, bien évident. Quand il y a du brouillard, etc., ou des vents trop forts. n'y a pas de migration, la migration est bloquée. Bon, c'est ce qui va se passer peut-être en ce moment, peut-être qu'après, quand il y aura une fenêtre météo, on va voir passer des palombes, et puis tout le monde, il y en a qui vont se gargariser avec ça, mais en fait, moi je dis qu'il ne passera pas 1 million de palombes, ça je peux déjà l'affirmer. Mmh. Et peut-être pas 500 000, et peut-être bien moins que ça. Mais il y aura probablement un passage. Mais le problème qui se passe, si tu veux, c'est que je prends trois années clés, là, 2008, 2009, 2010, moi je note tout, globalement, la météo a été bonne. On n'a pas eu 10 jours de pluie consécutifs, tu vois, ou 15 jours de brouillard, des trucs comme ça. Et on a eu quand même des passages relativement faibles. Alors 2008 au comptage, c'était un peu mieux, il y avait à peu près 2 millions d'oiseaux comptés, mais 2009 et 2010 c'est mauvais avec une relativement bonne météo. Ouais. Et c'est là que bah, blesse, c'est là que ça pose quand même des problèmes. Et moi si tu veux, bon, j'ai beaucoup de contacts avec des gens, je travaille dans les bois, bon, je vois des gars qui chassent en palombière, d'autres qui chassent au col, etc. Si tu savais, bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chasseurs qui se posent énormément de questions. Alors certains malheureusement vont arrêter, d'autres vont carrément arrêter la chasse. C'est pas les plus nombreux, mais enfin, ça va jusque là, quoi. Et d'autres vont jeter l'éponge parce qu'entretenir une palombière c'est énormément de travail pour ne pas voir d'oiseaux. C'est comme si tu demandes un gars jouer à la pétanque sans boule de pétanque, quoi. Bon. Mmh. Oui, à un moment tu te demandes de qu'est-ce que tu fous là. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des beaux paysages, etc. On voit toute la migration. Cette année on a vu quand même beaucoup. On a vu beaucoup le passereau, on a vu pas mal de grives, on a vu du milan royal. Bon, on a vu beaucoup beaucoup d'oiseaux, beaucoup de rapaces, énormément de grues, plus de grues que de palombes d'ailleurs. Et voilà. Alors c'est vrai que le passage sur la côte, on a ce déballage qui se fait est-ouest, mais il n'est pas pléthorique, je veux dire. Moi, je serais vraiment beaucoup plus heureux, beaucoup plus serein pour la suite si on avait vu débouler, par exemple, 3 millions de palombes est-ouest direction la côte. Mmh. Tu vois, là c'est pas le cas. On a 1 million d'oiseaux comptés. Je dis, il y a de grandes chances qu'il va en passer encore un peu là, au mois de novembre, à la première quinzaine. Mais c'est pas ça, si tu veux, qui va, je pense, nous prouver que cette population se porte bien. C'est la population qu'on chasse, nous, ici. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et faut pas s'étonner que depuis... mais ça bat de l'aile déjà depuis longtemps, si tu veux. On a eu quelques sursauts, etc. Mais je pense que, moi, ça va de mal en pire. Le début, on a commencé à parler avec des gars, là, bon, sur Irati, secteur d'Irati, ou des Sakia, etc. Le début du problème a commencé à la fin des années 80. À la fin des années 80, début des années 90, il y a beaucoup de chasseurs qu'ils se sont aperçus qu'ils ne rentraient plus de palombes comme avant, quoi. Moi, j'ai les chiffres, je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais c'est flagrant, quoi. Sur 30 ans, vraiment, ça ne cesse de descendre, quoi.
Ouais, parce que là, bon, le comptage, tu dis 1 million, 1 million 2, 1 million 3, c'est un des plus faibles que.
Tout à fait.
Depuis Radio Palombes,
ouais, c'est clair. Tout à fait, ouais.
D'accord. Tout à fait. On va te remercier, Georges. Ce qui va être intéressant, je voulais te demander, c'est. Tu sais qu'à Bordeaux, ils vont faire un colloque, là. Hein.
Oui.
Et ça, et là, on a nos amis à Arnaud Fontaine, on a aussi Valérie Dugif, ouais, qui seront et qui vont venir nous rendre compte. Là ça va être intéressant d'avoir les chiffres.
Tout à fait. Ouais. Juste une précision, il a lieu les 15, 16, 17 novembre au Palais des Congrès à Bordeaux. Il y aura beaucoup d'intervenants, nos amis espagnols, portugais seront là, beaucoup d'ornithologues, représentants de la chasse, etc. J'espère que le cœur des débats sera bien évidemment la gestion durable de la population transpyrénéenne et les autres, bien évidemment, les populations sédentaires. Et ça va être très intéressant. C'est un colloque qui a lieu tous les 10 ans. C'est quand même, bon, quelque chose d'important. Et il sera, d'après ce qu'ils ont dit, il sera rendu public. C'est-à-dire que sur Internet, en cliquant dessus, on pourra avoir la totalité du résultat de ce colloque, de ce qui a été dit. Bon, c'est quand même très intéressant.
Merci beaucoup, Georges.
Voilà, merci aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde.
Et allez, à très bientôt. Allez, merci beaucoup Georges Lascaraille donc pour tous ces détails. Il est toujours aussi pointu notre ami. Et Georges, donc c'est sympa. Et ben voilà, on a fait le tour, je crois, de la question pour ce soir. On va vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve demain. On va essayer d'avoir un dernier intervenant pour la dernière émission. Et puis je rappelle à nouveau, il faudra rester à l'écoute de Radio Ménilier parce que normalement autour du 20 là, normalement c'est le 22, le lundi 22, on aurait fait un forum et justement débattre à nouveau de chiffres, etc. Donc avec, je disais, Arnaud Fontaine, Alain Cochou et bien d'autres chasseurs de chez nous aussi, vous inquiétez pas, et même Pierre Verdet, comme on le fait traditionnellement depuis des années. Bonne soirée.